Musicopolis. Monteverdi, Mantoue, 1607. Il est difficile de savoir exactement à quelle date Monteverdi est arrivé à Mantoue, engagé par le duc Vincenzo Gonzague. En l'absence de correspondance de cette époque ou de notification dans les livres de comptes, les seuls indices que nous ayons sont les dédicaces de ses œuvres. Le 1er janvier 1590, il dédie son deuxième livre de madrigaux au président du Sénat de Milan. Il est alors revenu à Crémone après avoir cherché à se faire engager à Milan, où le poste de maître de chapelle de la cathédrale était disponible. Mais il n'a que 22 ans, il n'a pas eu la place. Dans le deuxième livre de madrigaux, on entend déjà la voix personnelle de Monteverdi, même s'il écrit encore en titre « Claudio Monteverde Cremonais, élève du Sieur Ingenieri ». On le reconnaît déjà dans le choix des poètes qu'il met en musique. Sur 21 madrigaux, le nom de Torquato Tasso, dit le Tasse, revient 10 fois. Le Tasse est encore vivant à cette époque, et même si sa santé est chancelante, au physique comme au moral, sa réputation de poète est extraordinaire. L'aube neuve ne s'était pas encore levée. Les oiseaux n'avaient pas encore déployé leurs plumes à la lumière naissante. L'étoile de l'amour scintillait encore. Le deuxième livre de madrigaux a certainement été pour Monteverdi une carte de visite pour se présenter à la cour ducale de Mantoue. Il est engagé comme joueur de viol, un instrument qu'il a pratiqué sans doute au service du président du Sénat de Milan, ou peut-être il a été repéré par le duc. Dans la préface de son troisième livre de madrigaux, en tout cas, Monteverdi écrit au duc cette fois-ci. « Je ne laisse pas d'accomplir mon devoir envers vous dans la fort noble pratique de la viole, qui m'ouvrit l'heureuse porte de votre service. » Le compositeur poursuit sa dédicace. « Les fleurs que voici, qui pour leur persistance se rapprochent des fruits, je les dédie avec mon plus profond respect à votre Altesse Sérénissime, en la suppliant de daigner les agréer avec bienveillance. Des fruits verts, sans doute, et fades à son goût fort délicat, mais conçu et fait pour elle, et comme tel, non indigne tout à fait de sa grâce. Et je me plais à espérer qu'à l'exemple du soleil, qui fait remonter les vertus des plantes, des racines aux fleurs et des fleurs aux fruits, votre Altesse Sérénissime, que je dois avec juste raison appeler mon soleil, pour les effets qu'elle produit en moi autant que pour la valeur qui éclate en elle, voudra bien, comme à son habitude, m'accorder assez de bienveillance pour que mon talent dans le jeu de la viole, ainsi qu'il sut pour elle fleurir, puisse pour elle encore, en mûrissant ses fruits, plus dignement et plus parfaitement la servir. » À présent qu'il a obtenu son poste de joueur de viol à Mantoue, qu'il a rendu hommage à son patron le duc Vincenzo avec la dédicace de son troisième livre de madrigaux, Monteverdi va participer au quotidien musical de la cour ducale. Si la ville n'est pas immense, environ 40 000 habitants, le duc fait en sorte qu'il y règne un faste et un luxe qui lui confèrent un haut standing. Il accueille volontiers des poètes, Letas ou Guarini, des peintres, Pourbus et Rubens. Et il ne manque pas de musiciens. J'ai déjà nommé les deux compositeurs en charge des églises, Viadana à la cathédrale, le Duomo, et Gastoldi à Santa Barbara, l'église intégrée dans le palais. Pour diriger la musique de la cour, Vincenzo a engagé l'un des plus prestigieux musiciens de son temps, Jacques de Werth.
Thank you.
Jacques de Werth est né en Flandre, mais il a été amené en Italie encore petit garçon pour chanter. Il a ensuite servi dans plusieurs cours avant de s'installer à l'âge de 30 ans, en 1665, à Mantoue. Il a servi à Santa Barbara avant de déléguer cette tâche pour se consacrer à la musique profane, plus proche sans doute de son inclination. Il a beaucoup œuvré pour la création d'une mélodie expressive et il a publié de nombreux livres de madrigaux. À sa mort, en 1596, le jeune Monteverdi espérait devenir à son tour le maître de chapelle. Mais il n'a alors que 29 ans et la préséance oblige sans doute le duc à nommer à ce poste un musicien plus âgé, qui était jusque-là maître de chapelle adjoint, Benedetto Pallavicino. Dans l'une de ses lettres, Monteverdi juge que Pallavicino est un musicien capable, alors que De Werth est lui un excellent compositeur. On saisira la nuance. Quoi qu'il en soit, Pallavicino remplace De Werth en 1596, mais il meurt en 1601. Et cette fois-ci, Monteverdi prend les devants, il écrit au duc pour demander à être nommé à ce poste, et il devient à son tour le maître de chapelle de la cour. Avec bien sûr tout le travail supplémentaire y afférent. Jusque-là, il jouait de la viole, chantait sans doute, et comme il le dit dans une lettre, il faisait sonner les grands luths et l'orgue de bois, en plus de composer. À présent, il y a aussi la musique des fêtes exceptionnelles, et puis, il dirige les exécutions des concerts qui ont lieu tous les vendredis, il dirige un ensemble vocal féminin, et il forme certains chanteurs, qu'il doit entretenir à ses frais. À côté de lui, Salomone Rossi fait partie de la musique instrumentale. Salomone Rossi est un compositeur de confession juive et c'est pourquoi il n'apparaît pas dans les registres de la basilique Santa Barbara. En revanche, on le trouve souvent comme chanteur ou instrumentiste à la cour. Il est probable qu'il a été à la tête d'une troupe de théâtre qui a joué un grand rôle, non seulement dans le ghetto de Mantoue, mais aussi dans le reste de la ville et à la cour. On sait par exemple qu'il a composé des intermèdes pour accompagner une comédie de Guarini, représentée en 1608. Rossi a été certainement bien en cour, puisque le duc lui a accordé de ne pas porter l'étoile jaune, qui était alors la règle depuis le début du règne de Vincenzo. On connaît aujourd'hui de Rossi aussi bien ses pièces instrumentales que ses madrigaux et ses psaumes, mis en musique pour la liturgie juive. Mantoue est une ville de Lombardie sur le bord de la courte rivière Mincio qui commence au nord au lac de Garde et se termine au sud en se jetant dans le Pô. Virgile évoquait, je cite, « Mantoue qui nourrissait des cygnes blancs comme neige sur son fleuve aux rives herbeuses ». En effet, au niveau de Mantoue, le Mincio forme trois lacs, ce qui en fait une région assez humide. Lorsqu'il voudra quitter la cour ducale des Gonzagues, Monteverdi se plaindra du climat qui ne lui réussit pas. D'ailleurs, son prédécesseur, Jacques de Werth, était atteint de malaria. Néanmoins, la position de Mantoue est assez centrale, à peu près à mi-chemin entre Milan et Venise, toutes deux distantes de moins de 150 km. Florence est un peu plus loin, 200 km au sud, après Bologne. Rome est franchement plus lointaine, de même que Naples. Mais autour de Mantoue, on trouve aussi les villes de Crémone, la ville natale de Monteverdi, de Vérone, Parme, Modène, Padoue, et surtout, à environ 90 km le long du Pô, Ferrare, où se tient la cour des Este. À la cour de Ferrare, on est extrêmement féru de musique. C'est là que quelques spectateurs et auditeurs absolument privilégiés peuvent écouter le Concerto delle Donne, le concert des dames, un petit groupe vocal féminin d'artistes d'exception, célèbre dans toute la péninsule. Les madrigaux qu'on y entend sont la propriété exclusive du duc Alfonso d'Este et les partitions sont enfermées dans un coffre à la fin de chaque concert quotidien. Luzzasco Luzzaschi est le maître d'œuvre. Je vous renvoie à la série Musicopolis sur ce compositeur. Il fait chanter ses œuvres et celles de nombreux contemporains. De quoi faire rêver aussi bien les amateurs que les compositeurs. Monteverdi se tient au courant de ce qui se fait à Ferrare Il a l'occasion parfois d'y accompagner le duc et ses madrigaux y sont chantés très tôt, parfois avant même d'être publiés. Le madrigal Cruda Amarilli sur un texte de Guarini, intégré dans le cinquième livre de madrigaux de Monteverdi, a suscité la polémique par la voix d'un certain Giovanni Artusi, qui se plaignait des libertés prises par le compositeur par rapport à la tradition de composition. À quoi Monteverdi répondra par la plume de son frère Giulio Cesare dans la préface des Scherzi Musicali en juillet 1607. Il revendique de développer dans ses œuvres la seconda pratica, la seconde pratique, qui vient suivre logiquement la première pratique, qu'en aucun cas Monteverdi ne rejette au contraire. Des préoccupations importantes, certes, mais de fait, pour l'orientation future de la musique, la grande affaire de la dernière décennie du XVIe siècle, c'est tout de même le chant à une seule voix, le chant monodique, qui permet de comprendre les paroles, d'exprimer les émotions, bref, de parler en chantant. C'est principalement à Florence qu'ont lieu les expériences qui mènent à l'invention de l'opéra. Déjà, les ballets de cour, dont une partie était chantée, laissaient entrevoir la possibilité d'une pièce entièrement chantée. Mais il manquait encore la manière d'écrire ce chant, pour qu'il puisse à la fois exprimer les passions des personnages et aussi faire avancer l'action. Les cénacles florentins des Bardi, puis des Corsi, réfléchissent, débattent et confient à quelques poètes et musiciens le soin de créer ce nouveau chant. En 1600, enfin, à l'occasion du mariage de Marie de Médicis avec le roi Henri IV, qui n'est pas présent, on représente à Florence ce qui est considéré comme le premier opéra, Euridice, dû aux plumes du librettiste Ottavio Rinuccini et du compositeur Jacopo Peri. La voie est désormais ouverte pour l'opéra. Le final de Euridice et Euridice de Jacopo Peri, Les Arts baroques dirigés par Mireille Poder. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Michel Bernot pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Béatrice Trichet pour la réalisation.